On y va pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu goûtes ça.
On a fait une salade de palmiste frais qu'on va agrémenter avec un peu d'oignon, du poivre pays qu'on a récolté aussi dans le jardin.
Donc là, on va faire un petit rougail saucisse. Soit on peut rajouter du piment, ou soit on ne rajoute pas.
Après, une fois que les oignons sont mis, on va pouvoir rajouter les tomates, ce qui est vraiment la base du rougail saucisse, le plus simple possible.
Une salade de palmiste, un rougail saucisse, mais aussi du miel de litchi, des combavas, des chouchous, un carré de crevettes. Dans quelle région de France peut-on déterrer autant de richesses agricoles et culinaires? Loin, très loin, à 10 000 km de la métropole, au cœur de l'océan Indien. Attachez vos ceintures, amis auditeurs, on va déguster, vous embarque pour l'île de la Réunion. Elvire Amasson, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous.
Il paraît que vous êtes du voyage.
Bah et comment? Faut comptiez me laisser à Paris?
Certainement
évidemment
pas.
Évidemment que j'en suis. On part à la rencontre de cuisiniers, de producteurs, d'artisans qui sont tous amoureux de leur île, on les comprend, et qui sont tous engagés dans une démarche vertueuse, écologique, biologique, à fond.
Et ça c'est important puisqu'il faut défendre cette île intense, éruptive, métissée, dont l'histoire créole se lit jusqu'au fond de ses casseroles, on va le voir. On va déguster, fait donc escale sur l'île de la Réunion et on commence notre périple par une sacrée découverte au nord de l'île, un cacao d'exception.
On va déguster.
Allons prendre un gazon à la Réunion sur l'émission Gastronomie de France Inter.
Bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous rencontrer.
Merci,
bonjour,
moi aussi.
Simon.
Bonjour. Voilà, je suis Simon Vienne, je suis le président de l'association Cacao Pays, qui a maintenant 3 années d'existence et cette association a pour but de relancer la culture du cacao en mode bio et en mode agroforestier, foresterie à La Réunion.
On est où ici?
Alors ici, on est dans une plantation qui fait 1,5 hectare à peu près, que l'association retape, exploite. C'est une plantation ici historique.
Historique. On est à Sainte-Suzanne?
C'est ça. On est dans la commune de Sainte-Suzanne, dans l'est de La Réunion. Alors l'est de La Réunion est un climat tout à fait idéal pour le cacaoyer, puisque le cacaoyer a besoin d'une pluviométrie constante toute l'année et aussi de chaleur. Ici, on a tout.
On a de la chance là parce qu'il y a un bon gros rayon de soleil. Il fait assez chaud. On est autour de 30 degrés.
Oui.
Et en général, c'est assez pluvieux quand même comme coin.
Ah oui, c'est très arrosé ici. Ici, on a l'habitude de dire que quand il ne pleut pas, c'est qu'il va pleuvoir. Donc, vous voyez. Mais d'un moment à un autre, la journée, le climat change. Là, on a commencé sous le soleil, il se peut qu'on termine avec une bonne rincée. Ça m'est déjà arrivé.
Mais c'est très humide et la végétation est très 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 luxuriante avec les moustiques qui vont avec. Hein.
Voilà, tout à fait. Vous verrez, ils sont assez costauds. Hein. Ils ont de quoi se nourrir.
J'en suis le témoin, ça y est.
Voilà.
On s'enfonce un peu dans la forêt?
Oui, on va y aller. Je vais vous montrer ça. Donc alors ça, ce sont des jeunes cacaoyers ici. Hein, mais on va arriver sur les plantations un peu plus anciennes. Vous voyez, c'en est un là. Alors, un cacaoyer, c'est un arbre donc qu'on va tailler aux alentours de 4-5 mètres. Hein. Donc, sur le tronc et sur les premières branches, on va retrouver les fruits. C'est ce qu'on appelle les cabosses, forme de ballon de rugby. Et à l'intérieur, ben, on va l'ouvrir tout à l'heure. Hein. Vous allez voir, il y a des fèves avec un mucilage autour. Et c'est ce mucilage-là qui va faire la fermentation.
Et pourquoi est-ce que la culture du cacao s'est arrêtée? Pourquoi elle a été abandonnée?
Alors, ce sont des raisons à la fois politiques et aussi climatiques. En fait, politique, parce que la France avait perdu des territoires et il y a une réorientation, une respécialisation de la Réunion en culture de canne.
Qui est
plus rentable aussi parce qu'en fait, on avait le climat pour. Et ensuite, il y a eu aussi des grandes périodes d'intempéries qui ont pas mal endommagé des cultures comme le café.
La culture du cacao s'est à peu près arrêtée il y a un siècle, c'est ça?
Voilà. La dernière chocolaterie, il y avait une chocolaterie à La Réunion, bas de la rivière. Elle a fermé en 1946. Et là, on est dans un des domaines qui alimentait cette ancienne chocolaterie. Voilà.
Et vous privilégiez une variété de cacao en particulier?
Tout à fait. Alors, l'intérêt ici, c'est de travailler sur cette variété, qui est la variété Criollo, qui est la variété luxe dans le cacao.
C'est un peu la Rolls-Royce?
Tout à fait. C'est la Rolls-Royce. C'est 2% de la production mondiale. Mais l'avantage de ce cacaoyer, c'est qu'il produit en moins grande quantité, mais il produit un cacao qui est tout à fait demandé dans la chocolaterie de luxe, parce qu'il y a moins de théobromine et moins de caféine.
On
On va regarder celui-là, mais celui-là, pareil. Je vais regarder s'il était mature.
Donc vous n'avez pas choisi la facilité, si on comprend bien.
Ah, tout à fait. Mais après, si vous voulez, il y a une autre raison. C'est-à-dire qu'en fait, à La Réunion, nous sommes condamnés à produire du luxe. En qualité, tous les produits alimentaires que nous produisons, nous sommes condamnés à faire du haut de gamme pour le café, parce qu'on est en compétition, par exemple, avec des pays où la main-d'œuvre est tellement peu chère. Et donc, on ne pourrait pas produire la même chose que ce qui se fait, par exemple, à Madagascar, en Côte d'Ivoire. On est obligé de produire un café qui est différent. Vous allez goûter tout à l'heure des ananas qui sont différents. Et on a de la chance aussi. On a de la chance parce que ce territoire, vous allez découvrir énormément d'espèces, de variétés de fruits, de plantations qui donnent, par la vanille par exemple, des produits d'exception.
Et vous avez choisi des méthodes culturelles très vertueuses. C'est-à-dire que vous êtes dans l'agroforesterie, aucun emploi de produits de synthèse.
Tout à fait. Les cacaoyers, ils sont nés en Amazonie, hein, sous la canopée. Vous voyez, on est à peu près un paysage typique d'une canopée.
On est à l'ombre d'ailleurs.
On est à l'ombre. Là, vous voyez, cet arbre-là, c'est un champac. Donc, il produit aussi ce qu'on appelle les feuilles qui vont se décomposer au sol et qui vont produire de l'humus. Parce que le cacaoyer est très demandeur, en fait, de richesse. Il puise énormément de richesse dans le sol. Et si vous n'apportez pas d'engrais, vous êtes obligé de que ce soit l'environnement qui lui apporte. Et vous êtes obligé de faire dans un environnement qui est riche.
Donc on est dans un écosystème très harmonieux en fait.
Très harmonieux. Ici, vous allez voir, c'est vraiment génial. On va voir quelques cacaoyers qui sont extrêmement vieux, qui normalement, en théorie, devraient être morts. Et aujourd'hui, ils produisent encore plusieurs dizaines de cabosses. Il y en a devant nous, là, vous allez voir. Par exemple, regardez celui là-bas.
Ah ouais.
Celui là-bas. Oula.
Alors ça, c'est... Ah, il y a même des cabosses qui tombent, on peut s'en prendre une sur la tête, non ?
Je ne peux pas m'en prendre une, là ?
Non, c'est pas des cabosses. Alors ça, c'est des noix de bancoule qui tombent.
Ah, bah
alors,
tiens.
Alors, parce que le cacaoyer, il a ça de spécial, c'est l'arbre qui ne rend jamais ses arbres. Une cabosse ne tombe jamais.
Ah,
voilà. Ça,
Il faut aller la décrocher.
Il faut aller la décrocher. Et si personne ne la décroche, qu'est-ce qui se passe ? Elle va noircir à l'arbre et elle va se rétracter sur elle-même, mais elle ne tombera pas. Alors, il faut savoir aussi que le cacaoyer, en fait, c'est un produit avec des arômes, comme le vin. Et ça veut dire que là, en fait, quand vous êtes dans un environnement de ce type-là, les fèves donc, de cacao vont s'approprier l'environnement, ce qui va leur donner des arômes.
Ah.
Il y a plus de 500 arômes identifiés dans une fève de cacao. C'est tout à fait ce qu'il y a dans le vin.
Une véritable complexité organoleptique.
Exactement. Et donc, cette richesse-là, cette complexité-là, eh ben, elle est acquise, elle se fait à travers l'environnement, ben bien sûr, la pluie, le soleil, les températures, le sol, mais aussi les arbres qui accompagnent. Par exemple, pour vous donner une idée, on a fait goûter à un chocolatier parisien nos tablettes, et il nous a dit, ben, il y a une note d'avocat là-dedans. Ben, c'est simple, les cacaoyers où était issue la récolte étaient plantés au milieu d'avocatiers. Donc en fait, pour vous dire, il y a un véritable échange d'arômes, et ces arômes extérieurs, on les retrouve à l'intérieur de la fève. Et c'est ça, après, on les retrouve en chocolaterie après.
On a hâte de goûter ce chocolat qui sera bientôt façonné à partir de ces fèves.
Ces fèves Criollo qui sont un peu la Rolls du cacao. Hein.
La Rolls du cacao, et on salue le travail de cette association Cacao Pays qui bosse sur la cabosse. On prolonge l'aventure de ce cacao réunionnais, toujours avec Simon Vienne, le président de l'association.
Voilà, on est chez Mado et Hubert. C'est ici que tout a commencé. Hein, toute l'histoire de la relance du cacao à La Réunion a commencé. Et du coup, pour les 80 ans de Hubert, du coup, en cadeau, on lui a offert les futurs bacs de fermentation qui vont servir à partir de 2020. Alors vous avez une cabosse ici, comment ça se présente? Quand vous coupez la cabosse, ce qu'on appelle l'écabossage.
Hein, la cabosse, elle est plus rose comme on l'a vu tout à l'heure sur l'arbre.
Tout à fait, là elle est mature.
Elle est un peu orangée, jaune.
C'est comme ça qu'on reconnaît qu'elle est bonne à récolter. Et à l'intérieur, donc vous voyez comment c'est. Et là, c'est comme ça. Alors,
sucez une,
vous allez voir.
C'est
le mucilage qui est autour.
Une espèce de pulpe en fait.
Oui, vous avalez pas, la graine est toxique.
Non.
Et vous craignez plus rien avec tous les piqueurs de moustiques que vous avez.
C'est bon, c'est pulpeux, c'est acidulé.
Exactement. Alors, le punch que vous allez goûter...
On commence par un punch. Génial.
Comment on le fait? Alors, la cabosse, on enlève juste le haut et le bas.
Le chapeau et le pied.
Le chapeau et le pied. Et on trempe ça dans du rhum. On laisse tout ça dans le rhum.
et ça s'imprègne, le rhum s'imprègne des couleurs de la cabosse, du mucilage, de ça. Et donc ça va donner un rhum, c'est un punch avec une certaine caractéristique. Et il y a une autre méthode de faire aussi. Alors le premier punch qu'on va goûter, c'est celui-là, c'est on va concasser les fèves. Et les fèves, on va les laisser tremper dans le rhum. Et au bout d'un certain temps, on va les déguster. On va déguster les deux, vous me direz lequel est mieux.
On peut aussi rajouter un morceau de gingembre aussi, ou du poivre, dans le punch avec le cacao. Ça va équilibrer un peu les molécules qui... Voilà.
Vous pouvez vous présenter ?
Éric Laval. Je cultive un petit peu des légumes longtemps, on va dire. Et puis, j'approvisionne les hôtels et les tables de l'île de la Réunion. Et même parfois, ça m'arrive d'envoyer des produits à l'extérieur.
Il paraît que vous savez cuisiner.
Ah, ce qu'on dit, oui, tout à fait, ouais. Chef de cuisine aussi, merci.
Bon, alors, Mado, ton plan de table, c'est lequel ? Alors, il y a tout, hein. Il y a la cuisine locale, alors, il y a du boudin, des samoussas. Alors, les samoussas, c'est quelque chose... Ah bah, si, vous, allez là-bas,
allez,
par exemple.
Bah, vous prenez place, là-bas.
On s'assied comme on veut ?
Oui. Ah bah, c'est un coin où il y a plus de moustiques.
Ah bah, je vais m'y mettre,
non, alors. Non, c'est bon, c'est pour vous, ça. Voilà, alors c'est ça le premier punch dont je vous parlais tout à l'heure. Alors celui qui est mélangé avec de la fève concassée, c'est celui-ci. Oui. Et l'autre, on voit bien les cabosses qui sont dedans, hein, les cabosses qui sont en train de se faire.
Ah, les cabosses sont vraiment immergées dans
l'alcool.
Voilà. Et c'est une couleur très brune.
Ça brunit, ouais. L'alcool blanc devient au bout d'un certain temps brun.
Est-ce que j'ai le droit de goûter ?
Ah bon, je crois qu'on va être presque obligé, je crois.
Allez Eric, Simon, Mado, on trinque.
Bon, allez, à la nôtre, à votre arrivée.
Merci pour votre
bienvenue à l'île de la Réunion, hein, en souhaitant que...
Comment on dit ça en créole ?
Vous souhaitez de la bienvenue et nous, ça va déguster. Ça veut dire en créole, on va déguster.
Waouh.
Ah, ça va, c'est
pas trop, hein, pas trop en abuser quand même.
Vous savez ce qu'il y a comme note, je trouve ? Réglisse beaucoup.
Ah, bien sûr.
Galabé. Oui, sucre caramel un
peu. Sucre caramel. Mais cacao aussi, hein,
cacao,
forcément.
Bien
c'est
sûr,
évident,
cacao.
Mais...
Avec une légère amertume.
Ça doit être assez traître, non ? Parce que ça se boit sans soif, là.
Moi, j'ai jamais réussi à boire beaucoup ici, parce que si je bois beaucoup ici, je suis bourré de tout, alors je bois très peu. Hein.
C'est un bonbon, ça. Hein. C'est un bonbon.
Un bonbon. Ouais.
Chin-chin
au
punch cacao. Et Elvira Vasson a fini pompette.
Il faut dire que ça se boit comme du petit lait.
Oui, ça se boit comme du petit lait, absolument.
Heureusement, on a pris des forces après pour compenser un petit peu. On s'est attablé, donc chez la dite Mado, et on a découvert quelque chose d'assez incroyable. On peut dire qu'on a mangé un arbre, François Régis.
Qu'est-ce que c'est ? Bah ça, c'est le palmier qu'on a abattu hier, effectivement hier, dans le jardin, ouais. Donc ils ont une dizaine d'années. Déjà, donc on a fait une salade de palmiste frais qu'on va agrémenter avec un peu d'oignon, du poivre pays qu'on a récolté aussi dans le jardin. Puis la surprise d'aujourd'hui, le fameux citron caviar.
Ah génial, que vous produisez vous-même.
Exactement. Donc on cultive, donc ça ressemble un peu à un cornichon.
Donc là on peut parler d'une salade 100% locale.
Ah oui, c'est complètement 100% local.
Attendez, d'abord, la chair de palmiste, comment on la travaille, une fois que vous avez abattu votre palmier, et avant qu'on arrive à ce qu'il y a dans le saladier, on fait comment ?
Eh ben, il est entouré de costes, qu'on va dire, et on décoste jusqu'à temps qu'on arrive sur une partie la plus blanche, la plus tendre. Donc on récupère juste la partie la plus tendre. Et puis les autres morceaux, ça va nous servir à mettre dans la carie poulet ou dans du porc, voilà.
Et là, c'est comme des espèces de copeaux, en fait.
Exactement. Donc à côté, j'ai préparé une petite sauce à base d'oignon, pareil. C'est du jus de citron, citron lime, oignon ciselé et du poivre pays et voilà.
On va pouvoir la goûter ?
Ouais, allez, on y va.
Ça y est. Bon. C'est un truc génial, hop. Ça.
Mmh. Là, qui...
voilà. Vous pouvez rajouter de la sauce pays.
La sauce pays.
La texture est incroyable, ça croque... C'est une texture assez inédite parce qu'on est quand même très 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 loin du cœur de palmier industriel auquel on est habitué en métropole. Mais moi, c'est la première fois que j'en mange. Mmh. J'adore ça.
C'est tendre. Mmh. C'est un goût d'amande fraîche, un peu.
Un petit peu entre champignons et amande fraîche.
Oui, c'est ça. Champignons, amande fraîche. Mmh. Est-ce que c'est bon ?
Champignons, amande fraîche, mais surtout palmiste rouge.
Quelle révélation !
C'est une
folie.
Hein. Incroyable, impossible d'aller à La Réunion sans avaler une salade de palmiste.
Mais attention, danger, parce qu'on devient carrément addict assez rapidement. Donc cette salade est composée, comme on le disait, de cœur de palmiste, de préférence rouge, qui est également le meilleur palmiste qui permet de faire cette salade, et qu'on assaisonne avec du citron vert, de la cive, un peu de sel. C'est une merveille.
Un vrai bonheur. Chez Mado et Hubert, la fève de cacao fermente dans les bacs, aromatise les ponches, elle condimente même les plats. Le cacao comme une épice dans une étonnante spécialité que nous a préparé leur ami Éric Laval.
Mais qu'est-ce que ça sent bon ?
Qu'est-ce que vous nous avez préparé, Éric ?
Donc là, pour ce midi, on a préparé un fondant de canard avec un suc de galabé et chocolaté, donc le cacao. Le cacao, du grain de cacao criollo, évidemment.
Comment vous vous y prenez pour faire ça ?
Donc, il faut le couper. Il faut couper en petits morceaux. Et puis après, vous faites rissoler la viande. Donc après, il y a comme ingrédient, il y a de l'oignon, de l'ail, du thym, du poivre pays, évidemment. Et une pointe de curcuma frais.
Donc, et le canard, c'est un canard entier que vous avez découpé en morceaux.
Oui, c'est tout. C'est le canard qu'on a pris malheureusement dans la cour. Mais bon,
C'est
comme ça, on vit comme ça. C'est comme ça qu'on vit ici. Dans le poulailler, il y a toujours le poule, canard, poule, voilà.
Et le cacao, il intervient quand alors dans cette recette ?
Après, donc, on le mouille. On mouille avec du vin rouge. Et à un quart d'heure de fin de cuisson, c'est là qu'on rajoute le grain de cacao et la poudre de cacao criollo, évidemment.
Et local, évidemment.
Mais c'est évident, ouais.
Mais j'ai l'impression que c'est des lentilles avec du thym.
Du thym, oignon, curcuma, safran pays, dans le Gras.
Les lentilles, elles poussent ici ?
Il y en a une variété ici, ça s'appelle la lentille Sillaos.
Ah ouais ?
Mais c'est dans les montagnes, beaucoup plus...
Ça va, moi.
Tout le monde a eu ?
Ça se dit bien, ça.
Merci, monsieur.
Marion !
Voilà.
Il n'était pas dingue ce fondant de canard au cacao ?
Mais surtout, on sentait une petite note effectivement cacaotée. C'est-à-dire que ça se sent vraiment, c'est un peu boisé, légèrement amer, assez rond. Bref, ça donne du caractère en fait le cacao.
Bravo au cuisinier Éric Laval.
Si l'on dit bien, c'est à l'impossible.
le rejoint. Vas-y, t'envole, le remet tout le vin. On dit assez à l'arrière, coucou, tire en moins dans ce rejoint. Il refait à l'âme, on l'arde en haut de la main. N'y connaît pour moi, sera difficile. Même il voudrait vivre à toi de l'asile.
À déguster l'émission gastronomique de France Inter.
Reste la maloya du chanteur culte Alain Peters, les casseroles dont va déguster dansent au rythme de la Réunion. Et de Sainte-Suzanne au nord-est de l'île, on trace une diagonale et on atterrit au sud-ouest dans le village d'Entre-deux, Elvira.
Très beau village à l'habitat préservé, entouré de collines verdoyantes, où nous avons rendez-vous pour vivre une expérience inédite et physique.
Nous avons enfilé nos vareuses, ce sont des combinaisons avec des filets pour se protéger. Et on est en compagnie d'un apiculteur, l'un des seuls apiculteurs en agriculture biologique de l'île de la Réunion.
Salut, Magdi, donc apiculteur biologique depuis 2009. Je gère un cheptel de 400 ruches, plus 200 essaims pour le renouvellement.
Nous sommes où à la Réunion ?
Alors, on est à l'Entre-deux, une petite commune du sud-ouest de l'île, dans les Hauts. On est en bordure du parc national. On est à 450 mètres d'altitude à peu près. C'est un petit village bien charmant, là. J'espère que vous aurez le temps de le visiter.
Vous aussi, vous portez la combinaison protectrice. Et dans votre main droite, vous tenez un petit appareil avec un soufflet.
Voilà, donc ça, c'est l'équipement indispensable de l'apiculteur. Hein. C'est l'enfumoir et le lève-cadre, ce qui nous permet d'enfumer les ruches pour leur prévenir de notre arrivée, pour qu'elles soient moyennement agressives, voire pas du tout. Et le lève-cadre qui permet de décoller les cadres et de manipuler dans la ruche.
Là, vous êtes au fort de la saison, vous êtes en pleine activité.
Ah oui, là, c'est le mois de mars, mars-avril, c'est vraiment notre grosse saison de l'année. C'est là où donc on fait le miel de baie rose, donc le poivre rose, pour ceux qui le voient dans le supermarché. Du coup, c'est à peu près un tiers de notre production en un mois et demi.
Et le miel de baie rose, c'est vraiment un miel traditionnel de la Réunion ?
Oui, c'est le miel traditionnel. Par excellence, on va dire, c'est celui que tout le monde fait, parce qu'il y a beaucoup de baies roses un peu partout. Hein, c'est un arbre qui pousse assez facilement et la miellée est d'une, on va dire, moyennement longue, ce qui permet à un peu tout le monde de faire un peu de miel.
Sachant que la baie rose, en fait, c'est cette espèce d'épice qui est un peu anesthésiante sous le palais.
Exactement, c'est ça. C'est très très parfumé comme épice. Ce parfum se retrouve, on va dire, plus ou moins dans le miel, qui se caractérise donc par une amertume en fin de goût dans le palais.
Et là, on va aller en prélever un échantillon.
Voilà. On peut commencer à s'approcher ?
Oui, on va aller.
C'est bon, elles sont prévenues ?
On va faire un petit tour par en bas, comme ça, on va voir vous allez voir un peu tout l'ensemble du rucher.
Il y a une espèce d'abeille qui est spécifique à cette zone géographique ?
Alors oui, voilà, donc on est dans l'archipel des Mascareignes. Et dans l'archipel des Mascareignes, on travaille avec l'abeille Mellifera unicolore, qui est une sous-espèce africaine qui s'est différenciée depuis quelques milliers d'années, donc avec la dérive de Madagascar. Puis après, elle est arrivée sur les différentes îles des archipels, on ne sait pas comment, mais elle est arrivée. Elle est arrivée avant les esclaves. Donc elle est bien spécifique à la Réunion, ce qui nous a permis justement d'avoir une porte d'entrée au cœur du parc national et de pouvoir justement travailler au sein du parc national avec nos abeilles. Hein, et à partir de là, on fait en sortir des miels extrêmement rares, comme le miel de thym rouge, que localement on appelle le miel vert.
Le fameux miel vert, miel très précieux et très rare.
C'est ça, c'est quelques centaines de kilos par an, bah, selon les années, même des fois il n'y en a pas du tout. Donc on va continuer à s'avancer.
Donc ça grimpe un peu ici.
Ah ben la Réunion c'est ça. Hein, c'est.
Et si on se retourne, on a une vue dégagée magnifique sur ben quoi
là, là vous avez tout le tampon devant, la plaine des Cafres qui est en haut, le volcan, le piton de la Fournaise qui est derrière, là, juste derrière les nuages. Et là vous avez le tampon, la ravine des Cabris qui est devant, le tampon qui est derrière. Et en gros derrière la ligne de crête que vous avez, ça arrive vers donc, le Grand Sud, Saint-Philippe où vous étiez ce matin.
Le panorama est fabuleux.
Ouais, voilà. Une belle lumière cette heure-ci.
Ah, oui. Le matin et le soir, c'est très joli. Alors donc là, on enlève le toit.
On s'approche un peu ou on reste à un mètre?
Vous êtes bien là, c'est pas mal.
Bien,
si
d'accord.
Vous pouvez venir vous mettre par ici. Là,
distance de sécurité là, raisonnable.
Voilà. Donc là, on commence à, on arrive sur le, donc sur les rayons de miel.
Mais vous êtes immunisé là contre les piqûres?
Oh, plus ou moins, oui, contre le venin, oui, mais bon, après les piqûres font toujours mal, ça, et donc là, on a un rayon de miel, donc de baie rose, caractéristique par sa couleur, donc très jaune, le fameux jaune fluo, là, que je vous disais.
Ah oui, il est vraiment presque voilà. Phosphorescent, ouais.
Ouais, donc après, le miel, lui, il est un peu moins, et alors, donc, je vais vous montrer quelque chose, c'est que quand les abeilles font du miel, dans la ruche, ça coule. Vous voyez ?
Ah oui.
Oh là là.
D'accord. Donc on va refermer ça. Et puis après, on va aller déguster, ma foi.
Ah bah avec plaisir.
Donc en passant par le miel de thym rouge, auquel on a parlé tout à l'heure, le miel de baie rose, cette fois-ci, on l'aura cristallisé et travaillé, donc vous verrez bien la différence. Mais également des miels de forêt endémiques, des forêts de Saint-Philippe. Donc c'est des miels de miel là qui sont très foncés, qui ressemblent un peu aux châtaigniers pour ceux qui connaissent, mais sur des notes plus caramel, plus de fruits confits. Et on a un miel, donc le fameux miel de Lecce, dont mon collègue vient de gagner la médaille d'argent des miels tropicaux au Salon d'agriculture de Paris.
Ah oui, concours général agricole.
Voilà, et puis après on a un miel de toutes fleurs d'hiver qui est un peu plus commun, mais qui a sa caractéristique aussi. À savoir que le miel c'est un peu comme le vin, c'est-à-dire que chaque miel a son terroir. Puis c'est vraiment très différent d'un pays à l'autre.
Très bien, on vous suit.
Allez, ben on est reparti, on va redescendre par l'autre côté.
Vous êtes, depuis le début de votre activité d'apiculture, en agriculture biologique, c'est un choix que vous avez fait.
Ouais.
Qu'est-ce que cela implique en termes de cahier des charges ?
Alors, ça implique d'avoir des aires de butinage conservées, préservées.
Mmh.
Donc, nous aussi à La Réunion, moi j'aime beaucoup travailler en bordure de ravines, j'aime beaucoup travailler dans le cœur de parc, en lisière de forêt, dans les espaces naturels sensibles. On arrive quand même à avoir des zones préservées à La Réunion, malgré l'urbanisation galopante, hein, on s'en sort quand même.
Mmh.
Le parc national est quand même un vrai atout pour nous, parce que c'est une sécurité à long terme.
Mmh.
Donc ça, c'est la première partie pour les abeilles. Après, le bio, c'est vraiment le travail de l'apiculteur. C'est le travail du miel, c'est les intrants qu'on y met, c'est les cires qu'on rajoute dans nos ruches, que ce soit des cires de qualité. Moi, c'est des cires qui proviennent uniquement de mon exploitation. C'est donc les intrants, tout ce qui est médicamenteux, etc. Ici à La Réunion, on est très chanceux, on n'a aucune maladie grave, pas de loque américaine, pas de varroise.
Donc pas de traitement.
Donc pas de traitement. J'ai un gros atout pour nous.
Et elles mangent quoi, vos abeilles ?
Eh bien, elles mangent que du nectar. Parce qu'on a sélectionné, donc j'ai sélectionné depuis une dizaine d'années, mes abeilles, donc les abeilles unicolores qu'on a à La Réunion, sur des critères donc, de résistance et puis d'autonomie. Donc au final, mes abeilles, elles vont au cœur de parc national, en montagne, et puis elles se débrouillent.
Mais ça veut dire qu'elles sont autosuffisantes
autosuffisantes à l'année.
Vous ne leur apportez pas de nourriture supplémentaire ?
Non.
On peut presque parler de miel sauvage, en fait.
Ben, c'est le cas. C'est le cas, ouais. On est sur du miel sauvage. Donc on est quand même dans de l'apiculture, on va dire, moderne, hein, parce qu'on travaille dans des boîtes standards, et on fait de l'élevage de rennes, de la sélection, de la multiplication, mais... d'un autre côté, au niveau de la nourriture, au niveau des ressources, on est sur des choses vraiment sauvages et pures.
Il faut pas l'oublier.
Voilà, donc là on est sur le, on va attaquer sur le miel de Bérose. Donc une couleur donc très jaune fluo quand il est frais. Et là on est plus sur de l'orange, quand même, orange tape à l'œil quand même. Mmh. Hein, mais voilà, donc bah, écoute, je te laisse le déguster.
Et une texture très agréable.
Ah oui, très crémeuse.
Oui.
Voilà. Donc ça c'est un peu le, c'est les rapports de sucre, hein, qui nous font ça. C'est le fructose, le rapport entre le fructose et le glucose dans les nectars qui amène une cristallisation très fine.
Il y a un petit côté safran au début.
Voilà.
Safran.
Safran. C'est marrant, c'est fou, parce que j'étais en train de me le dire.
Fou.
Il y a une note safranée. Très nette.
Coucou le chat.
Il veut du miel aussi, le petit chat?
Non, bah, il veut plus des croquettes, je pense.
Et il y a des notes très fraîches sur une certaine acidité.
Et puis après, en fin de goût, en fin de bouche, on a la petite amertume du bérose, oui, qui revient.
Absolument. Légère amertume.
D'ailleurs, on retrouve un petit peu les notes de cette épice.
Une note un peu rafraîchissante.
Oui. Ouais.
Donc voilà, ça c'est notre miel de bérose, hein, le miel vraiment le plus courant que vous trouvez à La Réunion.
Avec une texture très étonnante.
Voilà, donc après, en même temps que celui-là, pendant l'hiver, on fait le fameux miel vert, le miel de thym rouge. Hein, c'est un miel qu'on fait uniquement dans les forêts primaires, sur l'arbre de thym rouge. Moi je le fais uniquement en hiver, mes collègues ont réussi à le faire en été aussi maintenant, à La Réunion on a 200 biotopes différents, donc ils ont réussi à trouver un biotope où l'arbre thym rouge fleurit décalé, et du coup on travaille là-dessus pour arriver à se ressortir ce fameux miel vert une deuxième fois dans l'année.
C'est vraiment un miel légendaire et précieux.
Voilà, pour nous c'est vraiment quelque chose de très... de très précieux.
Et très recherché.
Voilà, c'est un miel très floral.
Ah ouais.
Qu'est-ce que c'est parfumé, ça.
Et puis, c'est un petit bonbon, là. Vraiment, c'est
la sensation est vraiment incroyable.
Un nez d'épices douces, c'est le miel du goûter.
Il est très, très gourmand, ouais.
Pain d'épices.
Très confiserie.
Oh là là.
C'est ça, très confiserie.
Vous considérez ce miel comme l'un des meilleurs du monde?
Ah, moi, oui. Pour moi, c'est l'un des meilleurs du monde.
Et l'un des plus rares.
Plus rare, j'espère qu'on arrivera à en faire un peu plus. Mais en tout cas, oui, très très bon et qui mériterait vraiment d'être plus connu.
Et c'est du coup un miel qui, j'imagine, se vend à un prix élevé.
Nous ici, il sort en magasin aux alentours de 60 euros du kilo.
Ouais, ce qui est cher.
Ce qui est cher pour du miel, voilà. Mais c'est comme le miel de Manuka, c'est comme des miels très rares et ou qui sont recherchés, du miel de très haute qualité, ça n'a plus de prix.
Et quelques minutes après, ce qui est incroyable avec ce miel, c'est qu'il y a une longueur en bouche, c'est très persistant. On a encore le goût sous le palais.
Voilà, ouais, là on est encore sur ce côté floral qui est toujours là, qui est toujours présent.
Et ça se développe, ça s'amplifie même.
Donc quand on l'extrait, le miel à la miellerie, il embaume toute la miellerie. Les habits sont embaumés de cette odeur-là, de ce goût-là qu'on a en bouche, là, qui reste persistant.
Vous rentrez parfumé à la maison?
Ça dépend des miels. Donc voilà. Donc alors après on va partir sur un autre miel. Donc celui-là qui est déjà beaucoup plus connu, du moins par le fruit, c'est le miel de Lecce.
Ouais.
Et il se caractérise à La Réunion par sa blancheur. Hein,
il est très pâle.
Voilà, il est très pâle. Quand il est totalement brut, c'est-à-dire qu'est-ce que j'appelle brut, c'est quand il sort de l'extraction, qu'on le met en pot et qu'on le cristallise directement, il devient vraiment blanc. Plus un miel de Lecce est clair, plus il sera pur.
Et on y retrouve en effet un peu le fruit. Hein.
Voilà, on y retrouve
bien
le fruit.
C'est assez flagrant.
Voilà, donc c'est un miel qu'on fait au mois de septembre. Et dès qu'on l'a dans les ruches, qu'on le goûte, bah, ça nous rappelle tout de suite le fruit de la saison du mois de décembre de l'année précédente.
Là, il y a une abeille qui insiste pour vous butiner.
Ouais, mais ça, c'est...
Elle vous reconnaît ?
Ça, c'est le bonheur de l'apiculteur. C'est-à-dire que où que j'aille, où que je sois, que ce soit en pleine ville à Paris ou... à la pêche au gros, à la mer, j'ai toujours une abeille qui vient me voir.
Vous êtes l'homme abeille.
Ouais, c'est ça. Je pense que c'est pas que moi, c'est tous les apiculteurs, mais j'ai tout le temps une abeille qui vient se balader.
Elles reconnaissent en vous un ami.
Voilà, c'est ça, j'espère.
L'ami des abeilles,
voilà.
Qui fait des miels de folie. Merci beaucoup.
Bah écoute, y a pas de problème. Avec plaisir de vous revoir.
Sur France Inter, on va déguster.
On se reverra, ça c'est sûr. Hein.
Une rencontre très attachante.
Oui, et d'ailleurs, si vous passez par La Réunion, ne vous privez pas d'aller lui faire une petite visite à Magdi Friedman. C'est l'un des seuls apiculteurs bio de l'île.
Où va l'eau, où va l'âme, et la sève, et les larmes, et va oui. Allez où, allez là, alléluia, allez où. Il est où, il lui.
Moi, c'est Rosemée. Ici, c'est le restaurant chez Moustache, au Tremblay, à Saint-Philippe, exactement, sur l'île de La Réunion.
D'accord. On est dans un restaurant traditionnel, en fait.
Traditionnel. Et je fais la cuisine au feu de bois, comme vous voyez. Donc là, on va faire un petit rogaille saucisse. On a déjà avancé un peu la friture des saucisses, parce qu'ici, sur La Réunion, on aime bien quand ça soit bien frit, que ce soit le poulet, les saucisses, ou tout ce qui est à base de viande. On aime bien que ce soit bien doré avant de rajouter les épices.
On est dimanche, vous êtes bien dans le studio dont on va déguster et on a la chance avec Elvira de soulever les couvercles des marmites réunionnaises. Et là, on le fait dans une de ces auberges familiales qu'on trouve un peu partout à La Réunion. Nous étions chez...
Moustache, dont la patronne Rosemée et son fils cuisinent toujours au feu de bois.
Nous, avant, on n'avait pas de gaz. Hein. Fallait chercher le bois sur la tête, amener pour que ma mère et ma grand-mère puissent faire cuire à manger. Et c'est pour ça que maintenant, là, je fais aussi la cuisine au feu de bois.
Comment on pourrait définir le rougail saucisse, qui est quand même une spécialité emblématique de l'île?
Alors, le rougail saucisse, c'est vraiment le plat, on va dire, traditionnel maintenant. Parce qu'avant... les saucisses, on faisait nous-mêmes les saucisses, on tuait le cochon, on préparait ces saucisses. C'est la base du plat créole avec le poulet qui était dans la cour, qu'on soignait, le cochon qui était là, le petit lapin qui était là aussi. Donc tout ça, je veux dire, ça fait partie des plats de La Réunion. Alors donc là, elle frit là, on va rajouter des oignons, ça va dorer avec aussi la viande, et après on va rajouter les tomates, que ça.
C'est une saucisse que vous avez découpée, que vous avez détaillée en morceaux.
Oui, voilà. Alors donc, oui, si vous voulez vraiment comment la préparation d'abord, ben les saucisses, on les achète fraîches. Après, on les fait bouillir. Pourquoi on fait bouillir les saucisses? Pour que ça renferme un peu la viande, que c'est un peu serré. Comme ça, on arrive à couper. Et quand on coupe, on fait dorer. Et après, quand on fait dorer, on rajoute les épices. Ça rentre bien dans la viande. Voilà, c'est pour ça. Et là, on peut rajouter, quand on dit rougail, soit on peut rajouter du piment, ou soit on ne rajoute pas. Mais bon, le piment, il est là, on peut le rajouter s'il y en a qui en veulent. Mais sinon, nous, on ne rajoute pas, on respecte les oreilles, les métropolitains, et qui n'aiment pas le piment.
Voilà. Là, les saucisses sont en train de rissoler.
Oui, voilà.
On entend d'ailleurs, hein, ça grésille.
Oui.
Et on prend un goût de feu de bois, on va le sentir au
bout.
Oui,
bien sûr. Oui. Alors, le bois qu'on brûle ici... C'est goyavier, litchi, boîte de filao. Ça donne un bon goût, une bonne odeur au plat.
Voilà. Allez. Toi, tu vas couper, tu vas rajouter les
oignons. C'est le fiston ?
Oui.
Exactement.
C'est lui qui va prendre la...
Ben, je m'appelle Sydney. Je suis le garçon de la propriétaire, ben, Madame Rosemée.
C'est ça.
Je travaille ici... Depuis l'ouverture, on va dire. Après, entre-temps, comme j'avais 2-3 propositions à droite, à gauche, donc j'ai fait un peu tout ce qui est hôtellerie, restauration, et je travaille aussi en métropole. J'étais sous-chef dans un hôtel 4 étoiles aussi en Suisse. Donc le temps d'avoir un peu d'expérience.
Et vous maîtrisez là la recette du rougail saucisse?
Ah oui, bien sûr.
Qu'est-ce que vous faites là?
Là, je rajoute les oignons, qu'on va laisser cuire, donc suer gentiment, vu que le feu n'est pas vraiment fort. Après, une fois que les oignons sont mis, je vais pouvoir ajouter les tomates, ce qui est vraiment la base du rougail saucisse, le plus simple possible. Donc c'est-à-dire juste concasser, et après c'est juste avec la chaleur, elles vont cuire tout doucement, ce qui va faire la sauce, qui va lier tout seul avec l'huile qui est à l'intérieur. Et qui vont être parfumées aussi avec le goût des saucisses, avec les saucisses ici, hop là, à La Réunion. On a des saucisses assez particulières, qu'on peut pas trouver justement en métropole.
Mais elle a quoi de particulier cette saucisse?
Les saucisses à nous, elles sont différentes. Par exemple, en métropole, les saucisses sont plutôt soit grasses, soit maigres. Tandis que nous, ici, nos saucisses à nous, il y a des épices à l'intérieur, il y a du thym. Ils sont bien mélangés, bien répartis niveau gras, niveau chair aussi. Parce qu'il y en a qui préfèrent les saucisses vraiment maigres, c'est-à-dire que les chairs. Il y en a qui préfèrent vraiment les saucisses qui sont bien grasses. Mais un bon mix des deux, c'est mieux. C'est vraiment mieux.
Le piment ou pas piment alors?
Le piment, c'est selon le goût des personnes qui veulent manger. Parce qu'après, c'est vrai que nous à La Réunion, on a le piment qui sont assez forts. Donc si automatiquement on va rajouter du piment à l'intérieur, ça peut vite devenir très 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 chaud.
Ça apporte quoi la cuisson au feu de bois dans le rougail saucisse?
Ça apporte le goût. Ça apporte ce goût qui justement est fumé, qui va bien se ressentir dans la sauce après. Ça fait vraiment le petit goût longtemps, comme on appelle ici, la cuisine de nos grands-mères.
Et pendant ce temps-là, votre maman prépare la salade de palmiste.
Exactement.
Elle est en train de découper le morceau de palmiste.
Là, elle épluche.
Elle épluche. Oui, on enlève la poche. Ouais.
Voilà. Là, on va commencer à suivre. Donc, tomate, après, franchement, il n'y a pas besoin de se casser la tête que ce soit parfait exactement. Non, parce qu'automatiquement, ça va fondre. Comme ça, ça a le temps de nous prendre doucement et que le jus a le temps de bien sortir pour faire une bonne sauce bien épaisse qui va cuire tout doucement, gentiment.
Pendant combien de temps?
Oh, pas longtemps. Il n'y a pas besoin d'être longtemps.
Heureusement, parce qu'on a faim.
Ça, c'est vite. Le rogaï saucisse, c'est un plat qui fait vraiment vite par rapport aux autres plats. Parce que dans le curry, la différence, c'est qu'il y a plus d'épices. Le rogaï saucisse, normalement, c'est que oignon. Il y en a qui rajoutent de l'ail aussi pour avoir un petit goût en plus. Mais normalement, la base du rogaï, c'est oignon et tomate. Que ce soit le rougail boucané ou le rougail saucisse, ça reste à chaque fois pareil.
Et ça s'accompagne traditionnellement de riz, d'un grain.
Les grains, après ça varie, ça peut être des lentilles, ça peut être des pois de terre. Il y en a qui ne connaissent pas beaucoup cela, tout ce qui est pois de terre, voème, ou même zambérique. Le zambérique, c'est la cousine des lentilles, sauf que le grain est un peu plus allongé. Mais au niveau goût et au niveau cuisson, ça se prépare exactement pareil. Même tout ce qui est haricot coco, haricot blanc, tout ça... Ça, c'est vraiment le plat typique réunionnais. Surtout le rougail saucisse. Ça, on le retrouve tous les dimanches, que ce soit en pique-nique, en famille, chez la grand-mère, ou sinon chez un cousin. Ça, c'est vraiment le plat des réunionnais à 100%. Même tous ceux qui habitent en métropole, je pense, quand ils reviennent en vacances à la Réunion, sont obligés de passer par cette étape. Un bon rougail saucisse. En plus, préparer au feu de bois, il n'y a pas mieux. En attendant, les oignons continuent à tuer lentement. Ils vont commencer à prendre une coloration aussi. Dès que ça commence à prendre une belle petite couleur dorée, on va pouvoir ajouter les tomates. Parce que l'oignon, plus il prend de la couleur, plus il sera fort en goût, automatiquement.
Il caramélise un peu.
Voilà, exactement. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir un feu ni trop fort, mais ni trop faible non plus. Et juste avant de rajouter mes tomates, je vais légèrement augmenter le feu. Pour que ça fasse vraiment cet effet saisi.
Comment vous augmentez le feu?
On va l'attiser.
Tout simplement. Vous soufflez un peu.
Exactement. À l'ancienne. Voilà. Ça va remonter.
Ah oui, effectivement, la flamme augmente.
Là, ça va bien remonter un peu la température. Après, on peut ajouter aussi des herbes aromatiques. Comme par exemple le caloupilé. Le caloupilé, c'est une herbe qui, au niveau goût et odeur, ça se rapproche du massalé, un peu. Donc tout le temps quand on fait des plats massalés ou tout ce qui est civé, on rajoute justement cette herbe aromatique-là, parce que ça fait penser un peu à ça et ça fait un petit goût plus prononcé.
Faut activer le feu là. Non, le feu n'est pas activé là. Voilà. Allez, on souffle.
Maman, elle donne encore des instructions?
À chaque fois.
C'est beaucoup plus précis qu'un thermostat, en fait.
Plus rapide. Il ne faut pas se rater. Après, l'inconvénient du feu de bois, c'est que quand il fait extrêmement chaud, automatiquement, on le sent vite fait.
Là, vous êtes en sueur.
Ah oui. Et pourtant, je ne vais pas rester devant longtemps. Et on va couper.
Et là, vous couvrez un peu.
Et là, on couvre. Comme ça, ça fait vraiment la condensation à l'intérieur.
Excusez-moi, hein, mais bon, je prends de la place aussi. Hein. C'est ma cuisine. Non, mais...
Comment il s'en sort, le fiston?
Très bien. Bon, un petit peu lent au début, parce que ben, c'est les jeunes. Hein. Ils aiment bien faire la fête. Après, ça réveille tard le matin. Mais après, il faut booster tout le temps. Voilà.
C'est sinon, normal. Ça va. C'est normal. Voilà, là, on voit déjà la différence.
J'ai l'odeur.
Rajouter. Voilà. Déjà, là, vous sentez directement l'odeur. Donc là, on voit bien la couleur que ça a pris, la sauce. Ça a bien réduit. Les tomates ont bien fondu.
Il y a une l'odeur. Sauce presque cuivrée de couleur.
Voilà, exactement. Un peu rougeâtre.
C'est ça.
Et on va rajouter juste les petits oignons verts au-dessus.
pour avoir le petit goût en plus et un petit peu de verdure.
Un peu d'oignon vert ciselé.
Et notre gâteau saucisse, il est prêt.
Et c'est prêt.
Voilà.
Bravo.
Plus qu'à consommer.
Moi, je suis prête. Je vais bien vous me servir, ouais. Ça sent bon. Ça sent le caloupilé. Hein.
Exactement. Les pois ?
Ouais, je me suis servi de riz, de pois.
Et les grains. Les grains là, soit c'est le pois de terre.
Ouais.
Parce que c'est des pois malgaches.
Magnifique cette assiette. Hein.
Bien sûr.
Je vais me régaler. Hein.
Merci. Bon chef. Appétit.
Merci.
On est toujours prêt pour le rougail saucisse, surtout celui de chez Moustache.
Mais oh là là, quelle découverte!
Ah oui, vraiment.
Incroyable, avec ces saucisses presque confites, denses, avec cette saveur fumée, c'est incomparable. Hein.
Le rougail, c'est tomate,
oignon, piment oiseau. Sauf que le nôtre, là, n'était pas très pimenté.
Pas très pimenté.
C'était pour les oreilles.
C'est ça, les oreilles. Oui, les métropolitains. Merci en tout cas à Karim, Jordan et Mina Mouelim. Ce sont des amis gourmets qui habitent au Tampon et qui nous ont glissé cette adresse à l'oreille. Filez, si vous avez l'occasion, chez Moustache, à Saint-Philippe. On n'a pas pris de dessert chez Moustache, Elvira.
Non, pour le dessert, on est allé au marché du Chaudron, à Saint-Denis. Où on a découvert un fruit assez fabuleux, en compagnie du chef Christian Virasamy Massé.
Ça, c'est les fruits stars de la Réunion, là, de Victoria, et après, c'est les chis. Dès que les chis tombent, le longani arrive.
Il faut imaginer une branche qui est comme une branche de litchi, couleur un peu vert, jaune,
un peu marron là.
Un peu marron.
Et la pulpe est transparente un peu comme le litchi, le noyau un peu plus gros, noir comme une chanson là. On dit que les yeux des créoles, elles sont noires comme les grains de litchi d'Ongani là, bien noir. Je trouve le goût plus subtil que le litchi moi. Je préfère ça que le litchi.
On va en prendre, non ?
On prend un petit peu, ouais. Bonjour madame, où c'est l'Ongani là, ils sont en Saint-Joseph. Prendre un kilo. Saint-Joseph, c'est...
Pays ou Fralé ?
Pays. Pays.
Là, vous avez quoi, 3,50 c'est bon ?
Bon.
3,50
Là, il y a 3 euros, là.
Comment ça se mange ?
Alors, c'est comme un litchi, on va enlever la coquille.
On enlève, en fait, la peau.
La peau, là.
C'est vraiment de la famille des litchis, en fait, c'est pareil.
C'est la même consistance,
oui.
C'est translucide chair, comme un litchi, mais ouais, c'est plus transparent.
C'est ça.
Et c'est plus pâle.
On voit le litchi blanchâtre un peu, hein. Mm. Il est transparent, on voit le noyau à l'intérieur. Mm. C'est top ça. Il est sucré, hein.
Ça a le goût de rose aussi, hein.
Oui, c'est délicat, très...
Mais c'est plus subtil qu'un litchi.
J'adore.
Le litchi peut avoir un côté un peu savonneux. Mm.
Quelque chose de plus... Le litchi est plus présent. Ça, c'est, voilà. On arrive comme une... Moi, je disais, c'est une infusion naturelle, ça.
J'en prends un, moi.
C'est très rafraîchissant parce que c'est très juteux.
C'est ça. Mmh. On peut imaginer n'importe quoi avec ça, là. Herbes, des machins...
Et là, on est en pleine saison.
Ah, là, on est en plein dedans, là. Et on a eu de la chance de ne pas avoir de cyclone, donc ils sont encore là, là. Bon, c'est fini.
On en garde un peu.
On va décortiquer ça, après, on va faire un granité, vous allez voir, c'est... Au restaurant, on a fait pousser de la citronnelle. Il y a quelques herbes, on a fait la citronnelle, on fait des granités avec ça. Ça et citronnelle verveine, c'est une tuerie.
Moi, je veux bien.
Avril, la pleine saison du longani, qui est ce cousin du litchi qu'on a découvert, incroyable. Et bien d'ailleurs, on prend la route du restaurant Le Choca Bleu, le restaurant de Christian. C'est situé à la Saline-les-Bains, à Trudeau, et on va promener notre cuillère dans le dessert de la chef pâtissière Nour Chefi, une fraîcheur à base de longani.
Donc on va faire un granité de longani. Il faut les laver avant, les couper en deux, et après on enlève la coque et le noyau qui est au milieu. C'est assez long, mais...
C'est le plus long.
Et après,
elle fait du petit bricolage, et hop.
Et après, on les mange.
D'accord. Les longani, vous les avez épluchés juste pour récupérer la pulpe.
Juste pour récupérer la pulpe. Donc, on les met dans le fond du verre. Et on va rajouter par-dessus un sirop léger citronnelle verveine.
Ouais.
Donc on aura gardé une partie en sirop et on aura mis l'autre partie au congèle pour en faire un granité.
D'accord.
Qu'on va gratter toute la demi-heure.
Toutes les demi-heures, vous allez gratter pour obtenir cette texture pailletée.
Voilà, c'est ça, comme de la neige un peu.
Et ça prend combien de temps? Faut compter combien d'heures pour faire un granité?
Faut bien 3 heures qu'on s'apprenne. Parce qu'à force de toucher, ouvrir. Donc après, on va mettre le granité au-dessus.
Au-dessus des fruits, des longanis.
Dans un verre à martini.
Dans un verre à martini. On remplit bien, voilà. On fait un beau dôme.
Ça va être frais. Hein.
Ça va être ultra rafraîchissant.
Frais et fruité.
Ah oui, vous en mettez un paquet là.
C'est laborieux.
Ça déborde du verre, quoi.
Oui, il faut.
Ah oui, c'est généreux. Ouais.
Ça va être bien, c'est ce qui va donner toute la fraîcheur au dessert, en fait. Et ensuite, on met un petit sacristain.
Qu'est-ce que c'est, un sacristain?
Alors, c'est de la pâte feuilletée qu'on a torsadée avec du beurre fondu et du sucre. Tout
d'accord.
Simple. C'est pour mettre un peu de croquant dans le dessert. Donc, on a le fruit, la fraîcheur du granité et le croquant du sacristain.
Très bien.
Très chouette.
Alors, c'est une fraîcheur de longanis et granité citronnelle verveine.
Surmonté de son petit sacristain.
Voilà.
Cuillère, s'il vous plaît. Ah non, j'ai très envie de goûter ça.
C'est top, ça.
Vous le faites aussi avec le litchi?
Oui.
Avec le litchi aussi.
Sur tous les fruits de l'année, on fait une fraîcheur.
Génial.
Top.
C'est bon, hein?
Ah ouais, c'est dément.
Rappelez-vous le goût d'Onganie au marché forain, et maintenant, ça relève encore le truc. C'est une infusion glacée.
Qu'est-ce et que c'est rafraîchissant, ouais.
On est vraiment sur la fraîcheur, c'est très fruité, et c'est pas, et trop, on est vraiment pas trop sucré. Hein.
Local, hein. Là on mange locavore.
Bravo, c'est délicieux.
C'est top.
On est bien.
C'était notre escale sucrée au Choca Bleu, cette paillote magnifique avec vue sur la mer du chef Christian Virasamy Massé.
On fera d'ailleurs les courses au marché du Chaudron avec lui.
La semaine prochaine.
On passera en cuisine, toujours avec lui. On parlera également de vanille et de tout ce que l'on peut faire avec une canne à sucre.
Pour cette émission en deux volets, spéciale réunion, toutes nos infos, nos recettes, nos adresses de la réunion, il y aura même nos photos sur franceinter.fr à la page On va déguster. Un grand merci d'ailleurs à l'ami Loïc Duros, un preneur de son qui a mis son micro et même ses doigts dans nos marmites. Merci à Nadia pour l'organisation du voyage. Merci à l'Office de tourisme de la Réunion pour nous avoir aidé à monter ce voyage. Et puis merci aussi à Benoît, vous vous souvenez, notre
bien
chauffeur,
sûr. Notre guide aussi.
Voilà, notre guide, une tchatche très très documentée. Un merci aussi particulier à Thierry Kasprowitz, journaliste gastronomique sur l'île de la Réunion, qui nous a beaucoup défriché le terrain. Il vient de signer le guide Caspro, Où se régaler à la Réunion, un nouveau guide très bien fait qui compile une centaine de tables dans toute l'île. Dans un instant, vous retrouvez Questions Politiques. À dimanche prochain à la Réunion, si vous avez encore faim.